sur des faits réels, à savoir que ce collectif de gays et lesbiens qui voulait soutenir les mineurs a réellement existé. Ils ont réellement rencontré les mineurs. Et puis, pour spoiler un petit peu la fin du film, effectivement, ce qui se passe à la fin du film est aussi la réalité, à savoir que lors de la Gay Pride, c'est les mineurs qui viennent ouvrir la marche de la Gay Pride.
Et pas qu'un peu, hein, je veux dire, c'est des quarantiers de mineurs
pour ouvrir la Gay Pride. Voilà, bah, tout cela donne à réfléchir, surtout dans le contexte de tous ces débats enflammés hein, qu'il y a en ce moment autour de ce qui relève de l'identité, de la lutte des classes, etc. Voilà.
À ce propos, je vous conseille, il a été question notamment du Phare, mais pas que, dans une émission, la dernière émission de Carapatage, qui était sur la répression des homosexuels.
Ah d'accord. C'est quand Carapatage, tu peux rappeler?
C'est le premier et troisième mercredi.
D'accord. On peut trouver ça sur le sur anarchiste.info, sur le podcast de anarchiste.info. Voilà.
Entre autres.
Voilà. Et donc, n'hésitez pas, concernant les autres rendez-vous de Publico, on a évoqué celui où on vous convie en fin mars. Mais n'hésitez pas à aller sur le site librairie-publico.info et vous verrez que pour le mois de mars, il y a déjà une grosse dizaine de rendez-vous déjà qui sont proposés. Voilà. On va continuer et conclure avec une chanson.
Est-ce qu'on peut, tu peux mettre une chanson de Big Thief, Santa Claus. Parce que
ah oui, c'est ce que je te disais sur Noël.
Parce que dans le bouquin, oui, il y a aussi un passage sur la magie de Noël. Hein, et en oubliant un peu aussi peut-être que c'est pas magique pour tout le monde.
Hein.
Et c'est ce que rappelle cette chanson justement.
Voilà, tu te rappelles Laurent, la petite copine de la zone d'éducation, enfin de l'école de nos enfants, qui disait que le Père Noël était un enfoiré parce que elle n'était pas moins sage que le gosse de riche et tout qui fréquentait aussi l'école primaire et que elle avait eu que dalle ou vraiment une poupée mannequin pourri pour son Noël alors qu'elle comprenait pas pourquoi. C'est que effectivement son Noël, il y en avait beaucoup, leur Noël c'était vraiment pas grand chose, c'était ce que la poubelle des Emmaüs avait vomi quoi, grosso modo c'était un peu ça. Et donc la magie de Noël, comme si c'était évident que tous les gosses à Noël, même ici en France, auraient les mêmes privilèges quoi. Ça fait partie des privilèges des riches,
hein, Noël, je te dis ceux qui sont en position dominante dans la société renvoient quelque part l'image de cette société-là. Moi, je le dis à chaque fois, et parce que c'est vrai que ça me fait mal. C'est par exemple, comme on est en pleine période d'hiver, donc les sports d'hiver, il y a 7% de la population qui va au sport d'hiver, et on t'en parle sur les médias tous les jours, on te fait voir ces belles images de la neige, de ces enfants où on joue toutes roses, toutes rouges, qui jouent dans la neige, qui font du ski, de la luge, etc. Et tout, ça représente 7% de la population. Pour la plupart des gamins, du moins dans nos banlieues, pour eux, Noël, c'est la cité, hein, c'est être au pied de la cité, ou au mieux, aller au centre de loisirs de la ville. Mais les journalistes des grands médias qui font partie de cette population-là, qui peut envoyer ses enfants au sport d'hiver ou qui part en sport d'hiver, te renvoie l'image de leur société, de ce qui est la norme. Et l'été, pareil, quand il y a ce grand battage médiatique autour des départs en vacances, ça me tord les tripes parce qu'il y a presque la moitié des Français, donc des enfants, qui ne partent pas en vacances, pas une journée dans l'année. Et on te présente les vacances. Alors c'est vrai que c'est un fait de société qu'on ne peut pas ignorer. Des millions de personnes qui migrent sur les routes, en train, en avion, tout ce que tu veux. Bien sûr que c'est un fait de société qu'on ne peut pas ignorer. Mais quand on te présente ça comme la norme, ça me fait mal au cœur. Et c'est quasiment un rituel. Et comment on s'excuse de ça d'une certaine façon, c'est que chaque année, il y a toujours le même reportage qui passe. C'est le Secours Populaire qui envoie quelques milliers d'enfants au bord de la plage. Je trouve ça scandaleux, mais enfin je dirais aussi que tout simplement et c'est ce que j'avais évoqué la semaine dernière avec Natacha, c'est que l'invisibilité qu'il y a de personnes dans la société, le but qu'elles deviennent visibles, pour moi n'est pas une fin en soi, ce qui est une fin en soi, c'est mettre à bas les inégalités, bien évidemment.
Je tiens juste, justement par rapport au sujet, à préciser quand même une chose, puisque tu parles des sports d'hiver. C'est que au-delà du fait d'avoir une influence, enfin que le côté t'as pas le fric pour y aller, même si tu aurais envie, c'est une réalité qu'on peut pas contourner, et ça, c'est rien de subjectif. En revanche, en effet, on est aussi des individus, et j'ai un point commun qui est pas forcément courant avec une des copines du groupe, c'est qu'on a horreur du sport. J'ai toujours eu horreur du sport. Ouais. On m'envoyait de force au sport d'hiver en colo, parce qu'il n'y avait pas les moyens autrement. On m'envoyait en colo en sport d'hiver. C'était un cauchemar. J'avais horreur du sport. On était obligé d'aller faire du ski. Je détestais ça. Et c'est pas parce que, je veux dire, il n'empêche qu'effectivement, la plupart des gens de ma condition n'auraient pas pu, peut-être auraient été super contents. Mais on reste, même si on est d'une origine sociale particulière, on reste quand même des personnes. Et il y en a qui ont bien le droit de détester le sport, par exemple. C'était juste une parenthèse. Voilà.
Mais du fond du cœur, je l'ai senti. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va continuer sur Radio Libertaire tout à l'heure, 14h30, onde de choc. Et donc, on écoute Big Tiff. Rendez-vous donc lundi prochain, si vous le souhaitez. Au revoir.
Je ne suis plus d'accord avec ça. L'heure est grave, les cloches sonnent. J'ai la déprime hivernale. On m'a dit
Santa Claus, occupe-toi des riches en premier.
Noël me joue des tours et ça commence à m'énerver. Je ne peux pas, je déprime. C'est parce que je voulais inspirer. Ils ont des noms et des billets. J'ai une liste à respecter. Je devrais pas leur donner autant. Ils n'ont peut-être pas mérité. Ma banquise s'affaisse et je finirai noyé. À tous les enfants sages à qui je ne vais rien apporter. Les bidonvilles n'ont pas l'adresse. C'est dur de les trouver parce que leurs parents sont trop pauvres pour s'acheter une cheminée. Pas de bras, pas de foie gras, pas de cheminée, pas de jouets. Il y a 50 copies de moi dans les rues au mètre carré. J'existe un jour par an, je suis en congé toute l'année. Un schéma de longue date, l'argent est le mot-clé. C'est la joie et le bonheur qui finiront par payer.
Merry, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas, Merry, Merry Christmas.
Une bonne conduite contre un jouet. Quand il est sage, je donne un sucre à mon poney.
S'il te plaît, Père Noël, ramène-moi un jouet.
Je ne peux pas, tu ne m'as pas envoyé ta lettre cette année.
S'il te plaît, Père Noël, ramène-moi un jouet. J'en ai jamais. J'étais sage, je promets. S'il te plaît, Père Noël, ramène-moi un jouet. J'en ai jamais. J'étais sage, je promets.
Si tu ne sais ni lire ni écrire, tu fabriqueras des jouets. Oui, mon petit, pour tous ces enfants de riches qui pourront se les acheter. J'entends rien, je ne vois rien, mais au moins je suis payé. Certains en auront à l'appel et d'autres en seront privés. À tous les enfants sages à qui je ne vais rien apporter. Les bidonvilles n'ont pas l'adresse. C'est dur de les trouver parce que leurs parents sont trop beaux pour s'acheter une cheminée. Pas de bras, pas de foie gras, pas de cheminée, pas de jouets. Faites pas Noël chez les pauvres. Ce sera comme si chaque année on ne fête pas Noël chez les pauvres. VIP pour des jouets, on ne fête pas Noël chez les pauvres.
Johnny s'en va en guerre, Johnny est jeune et fier. Dans son bel uniforme, il se prend pour un homme. Johnny a belle allure, Johnny est jeune et pur. Johnny est volontaire pour aller en enfer. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre, il ira en enfer. Il sera un héros servant la patrie. Johnny n'a pas compris qu'elle se moque de lui, que faisant son devoir, il vivra un cauchemar, et qu'on lui a menti que la guerre n'est qu'une boucherie. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre, il ira en enfer. Johnny ne sent plus rien, Johnny n'entend plus rien. Non, Johnny n'est pas mort, mais c'est bien pire encore. Johnny souffle martyr, Johnny voudrait mourir, mais personne ne l'entend, perdu dans le néant. Johnny ne sent plus rien, Johnny n'entend plus rien. Non, Johnny n'est pas mort, mais c'est bien pire encore. Johnny souffle martyr, Johnny voudrait mourir, mais personne ne l'entend, perdu dans le néant. Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre il ira en enfer. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore, Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre il ira en enfer. Qu'en allant à la guerre il ira en enfer.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage,
contre toutes les cages.
Bonsoir, vous écoutez bien Carapatage, une émission contre la prison, diffusée les premiers et troisièmes mercredis du mois sur 89.4 FM. Alors, ce soir, dans le studio, il y a Gomme.
Salut, salut.
À la technique, il y a Pile.
Salut.
Et puis, il y a moi, Pitou. Voilà. Alors, au début du mois de mai dernier, on a fait une première émission sur les prisons et la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on avait envie d'en faire une autre avec le même point de départ. En gros, le point de départ, c'était ça. Je vais le lire. La guerre, comme celle en cours en Ukraine, c'est celle des puissants qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire. Et comme à chaque fois que les puissants se font la guerre entre eux, c'est au prix de nombreuses victimes parmi toutes celles qu'ils écrasent déjà en temps de paix, chacun de leur côté ou ensemble avec des intérêts communs. À certains endroits, la mort, de faim, de soif, d'un obus ou d'une balle, s'est imposée dans la vie quotidienne. Dans ce contexte d'extrême violence, on avait envie de parler de celles qui vivaient déjà avant la guerre une autre forme de violence de l'État, l'enfermement. Alors l'idée de cette deuxième émission, c'est de faire le point, 4 mois plus tard, alors que la guerre n'est pas prête de s'arrêter, que l'on compte désormais au moins 50 000 morts,
dont 14 000 victimes civiles, enfin 5 767 morts civils et 8 292 blessés civils, d'après l'agence de l'ONU, d'après une estimation récente de l'ONU.
Et dans les 50 000 morts, on compte les soldats russes et ukrainiens. On voulait donc faire le point 4 mois plus tard, alors qu'il y a près de 7 millions de personnes qui ont fui la guerre, que des villes n'ont cessé d'être bombardées pendant des semaines, voire des mois, que la propagande bat son plein dans les deux camps, que l'État ukrainien reprend désormais le contrôle de territoires conquis par les Russes, que les États-Unis et d'autres États membres de l'OTAN ne cessent d'envoyer des armes de plus en plus lourdes à l'Ukraine, que des États européens interdisent l'accès à leur territoire ou ont envie d'interdire l'accès à leur territoire aux personnes de nationalité russe, et encore bien d'autres choses que tu vas nous dire, Margot.
Pour plus de précision sur les dernières nouvelles que, par rapport à ce conflit, à cette guerre, donc il y a eu là depuis le début du mois de septembre, il y a eu une contre-offensive ukrainienne au sud et à l'est du pays, et il y a 3000 km² et 20 localités qui ont été reprises en quelques jours du coup début septembre par les pouvoirs ukrainiens, notamment dans la région de Kharkiv, dont les villes de Koupiansk et d'Izium, qui sont des points stratégiques ferroviaires. D'ailleurs, à Izium, il y a un charnier qui a été découvert. Ils ont trouvé 400 tombes et une fosse commune de 17 soldats ukrainiens après le départ des Russes, avec des corps qui présentaient des signes de torture, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse. Et ils ont aussi retrouvé 10 salles de torture dans toutes les zones récupérées sur cette contre-offensive. Il y a un enjeu notamment sur l'oblast de Lugansk, du coup dans la région du Donbass, qui était le seul, du coup oblast, région, hein, la seule région qui était entièrement sous contrôle russe depuis le printemps. Et là, lundi dernier, donc avant-hier, il y a les troupes ukrainiennes qui ont repris pour la première fois une ville dans cette région. Du coup, c'est la ville de Bilorivka. Désolé pour les prononciations de tous les noms russes, je ne sais pas si c'est correct. Il y a également eu des dirigeants pro-russes donc dans les républiques séparatistes dans le Donbass, qui ont été tués donc le vendredi 16 septembre. Il y a le procureur de la République de Louhansk, du coup une des deux républiques séparatistes qu'ont déclaré leur indépendance en 2014, donc dans la région du Donbass, la République de le procureur de la République de Louhansk qui a été tué, et aussi le chef adjoint la ville de Berdiansk dans l'oblast de Zaporijja, et sa femme qui ont été tués également. Il y a eu en plus un bâtiment administratif qui a été donc tout ça c'était le même jour, hein, c'était le vendredi 16 septembre. Il y a eu aussi un bâtiment administratif à Kherson qui a été détruit, et il y a une chef du département qui a été blessée dans cette attaque. Et après, apparemment, il y aurait une vingtaine d'assassinats d'autorités, enfin de gens au pouvoir pro-russes dans les régions qui ont déclaré leur indépendance en 2014, qui ont été assassinées depuis le début de la guerre. Il y a aussi deux groupes de députés municipaux en Russie, pour le coup, suite à cette contre-offensive ukrainienne plutôt victorieuse. Il y a deux groupes de députés municipaux russes, du coup, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, qui ont demandé la destitution de Poutine en disant qu'il devait être traduit en justice pour trahison. Face à toutes ces déconvenues, on va dire, il y a Poutine qui a fait une annonce, qui a fait un discours ce matin, où il a annoncé la mobilisation partielle. Ce qu'il a appelé la mobilisation partielle, du coup, c'est 300 000 réservistes civils qui vont être réquisitionnés. Avant ça, lundi, il y avait une loi qui avait été votée qui prévoit 3 ans de prison pour ceux qui refuseraient, pour les réservistes qui refuseraient d'aller au front. Lundi également, il y a les autorités pro-russes des régions de Louhansk et Donetsk, et aussi de Zaporijja et de Kherson, qui sont donc des régions occupées partiellement par la Russie, qui ont annoncé tour à tour qu'ils allaient tenir des référendums pour devant conduire au rattachement à la Fédération de Russie. Et du coup, ces référendums, ils vont se dérouler a priori du 23 au 27 septembre. C'est ce qu'ils ont annoncé, en tout cas lundi. Et Poutine, du coup, dans son discours de ce matin, il a promis évidemment de soutenir cette initiative, de garantir la sécurité des votes et de soutenir la décision qui sera prise par les votes. Et aussi, il a proféré des menaces nucléaires. Et du coup, je rappelle aussi qu'il y a des enjeux autour des centrales nucléaires qui sont en territoire occupé, notamment la centrale de Zaporijjia, qui est la plus grosse centrale d'Europe, il me semble, qui a fait beaucoup parler parce que du coup il y a eu des bombardements à proximité et actuellement elle est complètement à l'arrêt, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle avait été mise complètement à l'arrêt, ce qui crée des gros enjeux pour l'énergie en Ukraine et sur la question de se chauffer cet hiver, notamment pour les Ukrainiens et Ukrainiennes. Et aussi une autre centrale nucléaire qui a été, où il y a eu des bombardements à proximité, et ça c'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Donc c'est la centrale de Fidenno-Novoukraïnsk, et du coup voilà, qui a eu aussi des bombardements. Du coup, pour rappeler que ces menaces d'attaque nucléaire viennent aussi sur un fond d'angoisse latente liée à ces bombardements à proximité de centrales et avec tous ces enjeux sur le contrôle des centrales qui sont en territoire occupé par les territoires ukrainiens occupés par la Russie.
Voilà, et puis en réaction au discours de Poutine de ce matin, je précise qu'il y a eu de nombreuses manifestations au cours de la journée dans au moins 37 villes, mais ça c'est les dernières infos. Et dans les dernières dépêches, on parlait de 800 arrestations dans tout le territoire, mais a priori, c'est un chiffre qui va a priori augmenter dans la soirée.
Juste sur les réactions en Russie, cet été, il y a eu aussi pas mal d'attaques de bureaux d'enrôlement qui ont été cramés. Voilà, il y avait aussi un appel qui est sorti sur les réseaux à s'attaquer au bureau d'enrôlement à partir du 1er octobre.
Et puis, donc voilà, dans ce contexte, on voulait continuer d'essayer de répondre à certains questionnements qu'on avait déjà lors de la première émission, à savoir, qu'est-ce que vivre la guerre coincée entre quatre murs d'une prison, mais aussi comment la prison devient un outil pour préserver l'unité nationale, notamment en enfermant les déserteurs. Comment les États se servent des prisons comme vivier de soldats, ou plutôt comment les prisonniers deviennent de la chair à canon facilement mobilisables. Et puis on voulait aussi parler des camps de filtration que l'État russe a mis en place pour asseoir son contrôle dans les territoires nouvellement conquis. Voilà, pour expliquer un peu notre démarche, le choix de parler de ces questions en particulier, ça s'est fait au gré des informations qu'on a pu trouver. En gros, pour être clair, personne d'entre nous n'est allé en Ukraine ou en Russie ou ne connaît quelqu'un qui vit là-bas ou a vécu là-bas. On se base uniquement sur ce qu'on a pu trouver sur Internet, que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou des blogs. Donc si des gens qui ont d'autres infos, d'autres connaissances sur le sujet veulent participer, c'est carrément bienvenu. C'est possible, je le rappelle, de nous joindre par email à carapatage@riseup.net. Et on enchaîne tout de suite avec Gomme, ce qui n'est pas une surprise puisqu'on n'est que deux ce soir. Pour commencer par parler de un peu les conditions d'enfermement actuellement dans les prisons en Ukraine.
Alors, avant les informations là que j'ai données au début, elles datent d'avril dernier. C'est tiré d'un interview qui a été publié sur Prison Insider, dont on mettra le lien sur le blog. Donc, avant le début de la guerre, il y avait déjà 20% des prisons ukrainiennes qui étaient en territoire séparatiste russe, pro-russe. Soit ce qui représente 15 000 prisonniers. Depuis le début de la guerre, dans les zones occupées, il y a certaines prisons qui sont toujours gérées par l'Ukraine, même si elles sont en zone occupée. Et même si par ailleurs, les renseignements ukrainiens disent qu'il y a des matons qui sont à la botte des Russes, en gros. Dans d'autres prisons en territoire occupé, c'est les Russes qui ont complètement la main mise après que les matons ukrainiens aient fui en zone ukrainienne. C'est le cas par exemple de la maison d'arrêt de Starobylsk, de la prison de Mariupol et la prison de Berdiansk. À Mariupol, par ailleurs, il y a un prisonnier qui a été tué en résistant à la prise de la prison par les Russes. Il y a aussi la prison de l'oblast de Kherson où les forces russes elles ont pris toutes les données des matons. Elles ont saisi toutes les données pour voir s'il y en avait qui avaient participé à la guerre côté ukrainien. Là, je vais d'abord parler un peu des conditions dans les prisons qui sont encore sous contrôle ukrainien, soit parce qu'elles sont qu'elles soient en territoire occupé ou ailleurs en Ukraine. Ce que disait cette interview, c'est que dans les prisons sous autorité ukrainienne, les prisonniers ils doivent bosser et participer à l'effort de guerre. Du coup, ils leur font par exemple les prisonnières, ils leur font coudre des uniformes. Les prisonniers participent également aux mesures de cybersécurité et à la lutte contre la propagande. Du coup, ils doivent par exemple laisser des commentaires sous des articles de médias russes pour donner des infos sur la guerre, mais du point de vue ukrainien, ou même contacter des personnes en Russie pour leur donner des informations sur la guerre, mais avec le point de vue ukrainien. Les personnes détenues, elles peuvent a priori, elles ont plus accès à leurs proches. Enfin, elles peuvent plus être visitées en prison. Il y aurait des appels en visioconférence possibles, mais possibles en théorie, mais qui seraient pas vraiment utilisés finalement. Il y a une seule chaîne de télé qui passe dans les prisons. Ce qu'ils appellent une chaîne unifiée. Du coup, c'est quelques chaînes qui se sont unies pour en former une seule. Et c'est cette chaîne qui diffuse des informations officielles ukrainiennes sur la guerre. Il y a plein de gens qui demandent une libération conditionnelle vu la situation. Mais les tribunaux fonctionnent au ralenti à cause de la guerre et à cause de la corruption. Il y a aussi la question des évacuations en cas de bombardement, par exemple. On y reviendra un peu tout à l'heure. Les prisonniers ne sont pas du tout prioritaires pour être évacués. Les transferts ils sont censés être faits par train, ce qui est compliqué, quoi, notamment quand il y a des bombardements. Et en plus, il y a des incidents. Alors, du coup, dans cet article, il parlait d'un incident qui avait eu lieu, enfin ce qu'ils appellent un incident, qui avait eu lieu pas longtemps avant. Du coup, une prison qui a été évacuée dans la région de Zaporijjia. Ils ont été transférés donc dans une autre région, la région de Kirovhrad, pardon. Et à leur arrivée, ils ont subi un passage à tabac en masse, apparemment par des membres de la garde nationale ukrainienne. Du coup, c'est la force contre-insurrectionnelle, c'est notamment de cette section dont fait partie le régiment d'extrême droite Azov. Il y a une enquête qui a été ouverte suite à ce passage à tabac. Et donc peut-être en plus de la garde nationale ukrainienne, il y aurait aussi les autorités pénitentiaires qui seraient impliquées. Il y a des photos qui ont été diffusées et tout ça. Hein, du coup, ils n'ont pas pu faire comme si ça n'avait pas existé. Et il y a des prisonniers qui ont déposé plainte et qui ont été forcés qui ont subi des pressions pour retirer leur plainte. Et ceux qui ont refusé de la retirer, ils ont été transférés vers la région la plus proche, vers la prison la plus proche de la ligne de front. C'est la prison de Mykolaiv à ce moment-là. Pour finir sur les prisons sous autorité ukrainienne, un autre truc qui était dit, c'est que les prisonniers de guerre russes, ils sont enfermés avec les autres dans les prisons de droit commun. En ce qui concerne les prisons qui sont sous contrôle russe, a priori, les prisonniers peuvent pas... les prisonniers ukrainiens peuvent pas prévenir leur famille de où ils sont, et la Russie a aussi interdit à l'ONU l'accès aux prisonniers de guerre. Du coup, il y a aucun contact avec l'extérieur a priori. Il y a aussi des problèmes assez durs d'accès à l'eau. Il y a des prisons où il y aurait pas d'eau, pas de lumière, pas d'élec, et peut-être même pas vraiment de nourriture. Il y a un exemple qui était cité dans la prison de Mykolaiv, justement près de la ligne de front, où les prisonniers sont restés sans eau pendant 5 jours. Voilà, ça c'est un centre, Mykolaiv, c'est un centre de détention provisoire. Il y a eu d'autres infos plus récentes, du coup, qui datent de cet été, sur la prison d'Olenivska, du coup, qui est également sous contrôle russe. C'est une prison qui est un peu particulière parce que c'est une prison sécuritaire où c'est surtout, voire exclusivement, des prisonniers de guerre qui sont enfermés. Du coup, des prisonniers des gens de l'armée, des militaires de l'armée ukrainienne ou des personnes qui aident l'armée ukrainienne, qui sont accusées de le faire par les Russes. Et donc c'est une prison qui est dans l'oblast de Donetsk. Et donc il y a eu un article qui est sorti avec une femme qui raconte un peu les conditions, ce qu'elle a vécu dans cette prison. Elle raconte qu'elles étaient 6 dans une cellule pour 2, qu'il y avait une seule petite fenêtre dans la cellule, mais qu'une tôle avait été soudée avec juste des petits trous percés dedans et que c'était la seule lumière qu'elles avaient dans la cellule. Que, par contre, toutes les portes du bâtiment étaient ouvertes et que, alors qu'il faisait -2 à l'extérieur et que du coup le froid était hyper dur à supporter. Elle disait qu'il y avait des cellules où il n'y avait même pas de lit et où les prisonniers étaient obligés de dormir à même le sol en béton gelé. Que c'est les prisonniers qui devaient s'occuper de tous les travaux, que ce soit l'entretien ou des trucs administratifs, genre dresser les listes des prisonniers, les prendre en photo, etc. Qu'il y a eu quand même le 17 mai des travaux qui ont été faits et une cuisine enfin qui a été mise en place et un four électrique qui s'est mis à fonctionner. Elle raconte qu'il y a la musique à fond, genre la radio FM qui est à fond tout le temps, des alarmes lorsqu'il y a l'électricité qui se coupe et que du coup ça fait qu'il y a du bruit tout le temps, une cacophonie en permanence, que la lumière était allumée en continu dans la cellule et que du coup il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde s'allonge, qu'elle devait s'allonger à tour de rôle, que l'eau elle était hyper rationnée, que c'était de l'eau dégueulasse qui leur a été donnée pour tout faire, quoi, que ce soit boire ou se laver, des mini rations, qu'il n'y avait pas de produits d'hygiène, pas de serviettes hygiéniques notamment. Il y a d'autres sources qui disent qu'il y avait beaucoup de maladies infectieuses dans cette prison, comme la tuberculose ou l'hépatite A. Et aussi, du coup, cette femme, dans cet article, elle parle de torture, quoi. Elle dit que les hommes, surtout, que c'était elle en tant que femme, elles n'étaient pas concernées par ces traitements-là, mais que les hommes, quand ils arrivaient, les nouveaux groupes d'arrivants, ils les alignaient dans le couloir et qu'ils les rouaient de coups, ils les forçaient à garder des postures pendant des heures et que s'ils bougeaient, ils s'étaient encore battus. Et voilà, il y avait ça qui se passait tous les jours, et que notamment il y a eu un traitement spécial, enfin encore plus de violence quand il y a des gens qui ont été enfermés qui arrivaient de l'usine métallurgique d'Azovstal à Mariupol, du coup qui se sont rendus en mai après plusieurs mois de siège, où il y avait notamment le régiment Azov dont je parlais tout à l'heure, donc il y a un qui était à la base une milice d'extrême droite qui a été intégrée, qui s'était formée en 2014 et qui a été intégrée par l'Ukraine dans son armée régulière, quoi, enfin dans la garde nationale, comme je disais tout à l'heure. Du coup, il y a eu ce siège et ils sont rendus en mai. Donc c'est 2500 personnes qui ont été arrêtées en mai suite à la reddition. Et du coup, une partie d'entre eux ont été enfermés dans cette prison de l'Enivska. Et du coup, elle raconte qu'ils ont été particulièrement... qu'ils ont été particulièrement torturés quand ils sont arrivés. Et cette prison d'Oleniska, du coup, elle est, elle a été, on en a beaucoup parlé cet été parce qu'elle a été bombardée en fait le 29 juillet à 9h du matin, ce qui a fait une cinquantaine de morts et 75 blessés. Et l'Ukraine et la Russie se renvoient la balle. Du coup, la Russie, elle accuse l'Ukraine de vouloir cacher les exactions du régime Azov, du régiment Azov, parce que eux, ils voulaient les. Du coup, la Russie dit qu'ils voulaient les traduire en justice et que là, ça allait éclater au grand jour toutes les exactions qu'ils avaient commises et que du coup, l'Ukraine aurait bombardé pour les tuer avant que cela n'arrive, pour pas qu'on sache qu'ils ont des nazis dans leur rang, en gros. Et l'Ukraine accuse la Russie de vouloir cacher la torture. Qui a été faite sur ces prisonniers et de pouvoir accuser l'Ukraine de crimes de guerre en disant que c'est l'Ukraine qui a fait ça, quoi. Du côté de l'Ukraine, c'est un peu plus précis, les accusations. Ils disent que c'est pas les autorités russes, enfin qu'il n'y avait pas l'accord des autorités russes, mais c'est que c'est des sociétés militaires privées, Wagner et Evgeny Prigogine, qui sont à l'origine, qui seraient à l'origine de cet attentat. Et le 4 août, il y a une manifestation des familles des prisonniers de Leniska dans le centre de Kiev pour avoir des nouvelles. Parce qu'en fait, du coup, y a, la Russie elle a communiqué une liste de blessés. Mais suite à ça, il n'y a plus aucune nouvelle. Et du coup, les proches, ils ont manifesté dans les rues de Kiev pour exiger d'avoir des nouvelles de leurs proches.
Tu parlais de Wagner, cette fameuse société paramilitaire privée, et qui est vachement impliquée dans les prisons russes, cette fois-ci, enfin en Russie en tout cas. Pas pour gérer les prisons, mais pour recruter des nouveaux soldats. Et alors dans l'émission précédente, on avait parlé un peu de cet aspect-là, à savoir comment les prisons deviennent sont des viviers, ouais, de soldats, quoi, pour la guerre. Et on avait notamment évoqué les centres de rétention en Ukraine, où d'ailleurs les personnes, alors que des centres de rétention qui étaient situés sur des zones de combat, où les personnes étaient contraintes de rester à l'intérieur et ne pouvaient sortir qu'en échange de participer à la guerre. Voilà. Alors cette fois-ci, moi, je vais uniquement parler de ce qui se passe dans les prisons russes. Pas par choix, mais juste parce que j'ai pas trouvé d'infos sur les prisons ukrainiennes. Alors simplement, depuis le début de la guerre, il y a une importante campagne de recrutement dans les prisons russes, qui est en grande partie menée par la société Wagner et l'un de ses représentants ou chefs, je sais pas comment dire, comme tu as dit, Yevgeny Prigogine. Donc effectivement, dès le mois de juin, des représentants de Wagner, mais aussi du FSB, faisaient déjà des recrutements dans les prisons russes à Saint-Pétersbourg, Smolensk, Ryazan. Désolé pour la prononciation, moi aussi, c'est sûrement pas comme il faut, mais je vais faire de mon mieux. Aussi dans les prisons à Tver, Rostov, Voronezh et Lipetsk. Donc déjà à ce moment-là, les prisonniers étaient recrutés pour des chantiers de reconstruction ou de déminage dans les territoires ukrainiens nouvellement conquis. Et à ce moment-là, rien que dans la République russe d'Adygeïa, dans le Caucase, environ 300 prisonniers auraient rejoint l'armée russe en Ukraine. Ensuite, à la mi-juillet, il y avait des témoignages de prisonniers qui parlaient d'une campagne de recrutement de Wagner dans la prison d'Obukhovo à Saint-Pétersbourg. Et on parlait dès ce moment-là d'une condition qui était que, après 6 mois d'engagement dans la guerre en Ukraine, les détenus auraient droit à une remise de peine, soit partielle, soit totale. Ensuite, à la mi-août, un des faits qu'on peut relever, c'est que Poutine a décerné une médaille du courage à un prisonnier condamné à 25 ans de prison pour meurtre, qui était mort au combat en Ukraine. Ce qui semble un peu, enfin, en tout cas, pourrait participer à glorifier le sacrifice de combattants venant de prisons russes. Et puis, plus récemment, donc début septembre, c'est un site d'information locale qui s'appelle 161.ru, enfin qui s'écrit comme ça, on va dire, qui signalait la campagne de recrutement dans les prisons battait son plein dans la région de Rostov. Donc c'est une région qui jouxte, enfin qui est au niveau de la frontière avec l'Ukraine. Et donc dans un article de ce site d'information, un détenu raconte notamment donc le 30 août à 6h du matin, tous les prisonniers de la prison numéro 2 de Rostov ont reçu l'ordre de se mettre en rang pour écouter une proposition de recrutement. Et alors on leur a promis des salaires compris entre 100 000 roubles et 300 000 roubles par mois, c'est-à-dire 1 600 à 5 000 euros. Et on leur disait, comme je disais tout à l'heure, que le service dure 6 mois et après tu es libéré avec un casier vierge. Si tu es tué, ta famille reçoit 5 millions de roubles. Et en recoupant des témoignages, le site estimait que le nombre de détenus ayant accepté la proposition était d'environ 400 dans la prison numéro 2 et 600 dans la prison numéro 15, donc à Rostov. Il y a eu des séances de recrutement qui ont été observées dans 3 autres prisons de la région. Avec la petite précision que les salaires et les primes sont versés directement sur les comptes bancaires de proches, tout comme les compensations en cas de décès. À chaque fois, les représentants donc de Wagner, notamment, enfin en tout cas ceux qui mènent cette campagne de recrutement, préviennent les prisonniers qu'ils formeront les unités d'assaut et combattront en première ligne. Donc ils garnissent des rangs de groupes de mercenaires et ne sont pas inclus dans les forces armées officielles, ni dans les rangs d'unités appartenant au ministère de la Défense. Par contre, à ce sujet, dans le site d'information russe Insider, il est dit que Wagner recrute également des cadres de l'armée parmi les prisonniers. Voilà, et puis le 15 septembre dernier, il y a une vidéo qui a fait le buzz. C'est donc une vidéo où, a priori, enfin, sans trop de doute, on voit donc Yevgeny Prigogine, ce cadre de... Enfin, patron de cette société Wagner, qui est aussi milliardaire et proche de Poutine, donc qui fait un discours au milieu de dizaines de prisonniers dans une prison de la République de Mariel, à 600 km à l'est de Moscou. Et donc on le voit qui fait son discours, et bon voilà, c'est assez incroyable, comme, enfin en tout cas, parmi les choses qu'il peut dire, j'ai noté que donc il répète que la société Wagner a besoin uniquement d'infanterie d'assaut. Il dit même que 60% de ces gars sont des stormtroopers, en référence aux soldats de l'Empire de Star Wars. Il raconte comment des prisonniers de Wagner que Wagner a recrutés sont morts en héros sur le front. Ensuite, il énonce un peu les conditions de recrutement. Donc il faut avoir entre 22 et 50 ans. En dessous de 22 ans, il faut avoir un accord parental. Il faut avoir une bonne forme physique. Bon, rien de plus. Sinon, il énonce les règles. Alors parmi les règles, il n'y a pas de drogue, pas de relations sexuelles. Mais aussi que la désertion est punie par la peine de mort. Voilà, au bout de 6 mois, lui précise qu'au bout de 6 mois de service, du coup, tous ceux qui s'engagent auront une remise de peine totale, une grâce. Voilà. Et donc, officiellement, cette vidéo, elle n'est pas présentée comme une vidéo de Wagner. Elle a officiellement fuité. Mais quand même, tout laisse penser qu'il s'agit d'une espèce de stratégie de com qui est déjà à l'œuvre depuis début septembre. Déjà sur le canal Telegram Grey Zone, qui est un canal proche de Wagner, avait été publié le récit d'un ex-détenu membre de Wagner qui expliquait un peu son enrôlement et comment ça lui avait permis de se racheter, quoi, en gros. Et puis, il y a un nouveau site qui est apparu et qui a été mis en ligne, qui s'appelle goulagou.da et qui est une référence directe à un site déjà existant qui s'appelle goulagou.net, qui est en fait un site qui existe depuis, bon, je ne sais pas combien de temps, mais qui existe déjà depuis longtemps. D'ailleurs, qui est en partie francophone et qui documente les violences dans les prisons russes. Donc ce nouveau site goulagou.da et non .net C'est notamment Yevgeny Prigojine qui en a fait la publicité publiquement récemment. Alors, je suis allé dessus et en fait, c'est juste une page avec un titre qui s'appelle « Histoire de héros qui ont fait le bon choix ». Et en dessous, on peut visionner une dizaine de courtes vidéos avec des soldats en fait sur le front, enfin sur des zones de combat en Ukraine, qui encouragent simplement les prisonniers à s'engager, à accepter les offres de la société Wagner. C'est assez éloquent, quoi. Bon, chaque vidéo s'adresse à une prison en particulier. Du coup, il y a un groupe dans une vidéo, on voit un groupe de soldats qui dit « Bonjour à tous, IK9 », qui est en référence à la colonie correctionnelle numéro 9. « On vous passe le bonjour, voilà, nous avons, donc ils sont sur un lit d'hôpital. On a eu un petit combat, ils nous ont bien un peu touchés, maintenant on se rétablit. On est entré dans une zone boisée, il y avait beaucoup de nazis, mais on leur a quand même botté le cul. » Enfin, c'est assez caricatural comme genre de vidéo. Et puis il y a d'autres vidéos qui disent « N'ayez pas peur, faut accepter, faut s'engager ». Bref, voilà pour la petite histoire, enfin l'espèce de petite stratégie de propagande pour alimenter cette campagne de recrutement. Et d'ailleurs, au passage, Prigojine, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai lu qu'il avait lui-même passé 12 ans en prison quand il était plus jeune. Il avait été condamné pour vol notamment. Peut-être ce qui explique son aisance aussi dans une prison, à parler avec des prisons. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça.
Je voulais dire deux, trois mots sur ce qu'on sait de ce qui se passe côté ukrainien. Du coup, côté ukrainien, ils recrutent aussi dans les prisons, a priori. En tout cas, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que la grâce présidentielle, elle a été accordée à 363 prisonniers qui étaient déjà entraînés au combat. Et du coup, elle leur a été accordée en échange qu'ils rejoignent le front pour combattre. Et il y a aussi des suspensions de peine. Du coup, ça veut dire que les personnes, les prisonniers... sortent faire leur service militaire, mais que c'est pas décompté de leur peine de prison, qu'ils ont pas de remise de peine. Du coup, une fois qu'ils ont fini leur service, ils retournent en prison une fois à la fin de la guerre, ils retourneraient en prison pour finir leur temps, pour finir de purger leur peine. Voilà pour ce qu'on sait de comment ça se passe du côté ukrainien. Et a priori, il y aurait pas mal de prisonniers intéressés. Il y en aurait été 1000 qui auraient été recensés, qui seraient intéressés par cette suspension de peine. Et ce qui est pas mal lié au fait qu'il y a un sentiment patriotique exacerbé qui a été observé dans les prisons et qui est relié par les gens qui en parlaient dans l'article que j'ai lu, qui est relié à cette chaîne unique dont je parlais, qui fait de la propagande toute la journée dans les prisons.
Ah, puis je rajoute un petit truc, donc je reviens sur le contexte russe, mais où il y a un journaliste d'investigation, bref, Andrei Zakharov, qui a aussi trouvé des annonces de recrutement qui avaient été publiées sur les sites internet de deux hôpitaux psychiatriques à Saint-Pétersbourg. Alors, ils n'existent plus, mais bon, voilà. Il avait fait sortir cette info. Et puis, dans un autre genre, pas dans les prisons, mais en dehors, à Saint-Pétersbourg, il y a une ONG d'aide aux sans-abri qui s'était vue proposer de distribuer des tracts de recrutement aux sans-abri qu'ils aidaient. Voilà. Bon, on va essayer de poursuivre sur notre thématique du soir, à savoir un peu... les prisons pendant ce contexte de guerre en Ukraine. Et puis on avait on avait envie de parler de la question de la désertion et de la répression de la désertion. Comment les prisons servent à enfermer les déserteurs ou en tout cas à les empêcher de passer à l'acte ou de fuir. Lors de l'émission précédente, on avait pas mal parlé de l'application de la loi martiale en Ukraine et les peines de prison prévues par le code pénal pour les déserteurs ukrainiens. Pour rappel, depuis février 2022, en Ukraine, c'est la mobilisation générale. Les hommes entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le pays et doivent aller se présenter à l'administration pour être enregistrés. Alors, s'ils sont pas tous forcés d'aller se battre, la pression des services de recrutement de l'armée ukrainienne devient chaque jour plus forte. Il y a des militaires ou des policiers qui font du porte-à-porte pour intimer les gens d'aller au centre de recrutement. Ils patrouillent aussi, notamment dans les villages où, par exemple, en Transcarpathie, qui est une région montagneuse du sud-ouest, donc ils y patrouillent pour voir si des hommes se cachent. Et puis, une fois que les hommes sont amenés, ou en tout cas se pointent au centre de recrutement, ils sont souvent menacés de finir dans une tranchée s'ils ne se montrent pas assez motivés. Et puis, la conscription est elle-même devenue une forme de nouvelle punition, quoi. À celui qui ne respecte pas la loi, plutôt que la casse-prison ou une amende, et on lui impose désormais un passage au centre de recrutement, ce qui peut légalement mobiliser immédiatement n'importe quel Ukrainien. Pour info, fin mai, il y avait une pétition en ligne qui avait récolté plus de 25 000 signatures pour réclamer la levée de l'interdiction de sortie de territoire. Mais Zelensky avait rapidement réagi publiquement en jouant sur la culpabilisation par rapport à tous ceux qui se battent. Et en gros, tous ceux qui fuient et qui ne sont pas assez courageux. En opposition à tous ceux qui fuient et qui ne sont pas assez courageux. Le 5 juillet, il y a aussi une annonce de l'armée qui a brutalement, qui annonçait que plus aucun homme ne pouvait quitter sa région de résidence. Mais cette fois, il y a eu apparemment un tollé important, et le soir même, Zelensky a dû rétablir la situation. Donc la libre circulation en Ukraine a été restaurée, mais il faut quand même justifier ses déplacements à chaque fois qu'on quitte donc une des régions, sa région de résidence, son oblast de résidence. Aujourd'hui, en tout, il y aurait près de 280 000 militaires ukrainiens au combat. Mais selon les gardes frontières ukrainiens, depuis le début de la guerre, selon les gardes frontières ukrainiens au mois d'août, et donc depuis le début de la guerre jusqu'au mois d'août, on compterait à peu près 6 400 hommes de 18 à 60 ans qui auraient cherché à quitter le pays sans autorisation et donc qui auraient été arrêtés aux frontières. Dont plus de 4000 après avoir essayé de passer à des points de passage illégaux. Ils disent que donc certains auraient essayé de passer en se déguisant en femme, d'autres en essayant de se cacher dans des véhicules. Alors, on a essayé de... je me posais la question de savoir si ces personnes, une fois arrêtées, prenaient les peines de prison prévues par le code pénal. Mais selon un article que j'ai lu, a priori, les gens, la plupart du temps, ils sont envoyés au tribunal et reçoivent une amende d'environ 230 euros. Et ensuite, leurs coordonnées sont transmises au bureau des conscriptions. En tout cas, quand on avait fait la première émission en mai, on avait vu qu'il y avait un projet de loi qui prévoyait des peines d'un à trois ans de prison pour les conscrits en cas de franchissement illégal de la frontière et de 3 à 5 ans de prison pour les militaires et réservistes mobilisés. Il y avait même un projet de loi qui prévoyait des peines de prison pour les ressortissants ukrainiens vivant à l'étranger qui, s'ils ne venaient pas se battre au pays, quoi. Alors, à partir de ces chiffres, on imagine bien qu'il y a un nombre assez important de gens qui ont réussi quand même à fuir. Au vu notamment... à la fois au vu des chiffres d'arrestation, mais aussi... il y a plus de 2 km de frontières, je crois, de frontières terrestres. Mais évidemment, tout ça a un coût. Enfin, ça dépend. J'imagine qu'il y a des gens qui ont réussi à se barrer sans forcément payer un passeur, mais ça a l'air d'être quand même un peu la norme. En tout cas, selon des témoignages, à la frontière roumaine, il faudrait entre 500 et 2000 euros pour corrompre un garde frontière. Alors, j'ai trouvé l'exemple d'un jeune à Tiachiv, près de la frontière roumaine aussi, qui s'est fait arrêter en tant que passeur, quoi. Lui, il demandait 1500 euros pour faire passer la frontière. Et donc, il a été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Et d'ailleurs, à ce sujet, au niveau national, On comptait récemment 170 procédures pénales engagées pour le transport illégal de personnes à travers la frontière, enfin à travers les frontières de l'Ukraine. Voilà pour un peu ce qui est du contexte en Ukraine. En ce qui concerne la Russie, donc pour l'instant, il n'y a pas de mobilisation générale. Enfin, je dis pour l'instant parce qu'on, je sais pas, on peut lire un peu à droite à gauche que ça ne saurait tarder. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, il y a eu ce discours de Poutine de ce matin qui décrète la mobilisation partielle de réservistes. En tout cas, jusqu'à présent, c'était surtout l'armée s'appuyait surtout sur des conscrits, c'est-à-dire des soldats jeunes de 18 à 27 ans, éligibles à un an de service militaire obligatoire. Donc au total, c'est près de 135 000 conscrits qui ont été recrutés au printemps, pour la plupart sans formation. Et en fait, après 4 mois d'engagement, ils peuvent changer de statut et devenir des soldats contractuels pour une durée variable. Voilà, du coup, c'est un peu le principal vivier, enfin pas si, principal vivier de soldats de l'État russe, qui s'appuie notamment sur, qui appâte un peu aussi les gens avec des salaires quand même pas négligeables. On peut gagner entre 2000 et 6000 dollars par mois, sachant que le salaire mensuel moyen en Russie, c'est 700 dollars. Alors, voilà, en Russie, l'État russe doit aussi faire face à de nombreuses désertions ou défections dans ses rangs, même s'il arrive à recruter beaucoup de soldats. Et donc, par exemple, en juin et juillet, il y a deux unités présentes dans le Donbass ukrainien qui faisaient état de à peu près 380 soldats réfractaires. Et donc, face à cela, il y a à la fois des prisons qui sont improvisées sur les zones de combat, à côté de Louhansk. Il y avait un exemple d'une prison qui était aménagée dans une école où il y avait plus de 80 militaires qui avaient refusé d'obéir aux ordres, du coup, qui étaient enfermés. Mais aussi des prisons dont la Russie a pris le contrôle, comme à Perevalsk, près de Louhansk également, donc qui sert à enfermer un peu les soldats réfractaires. Pour info, en Russie, il y a eu... donc les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les membres des forces armées qui abandonnent leurs devoirs sous serment. Cette législation, elle n'est pas appliquée dans le cadre de l'opération militaire spéciale, puisque officiellement Moscou ne mène pas de guerre contre l'Ukraine, mais on imagine bien qu'ils peuvent passer outre cette formalité.
Et pour rappel, l'opération militaire spéciale, c'est le nom qui est donné par les autorités russes à la guerre actuelle en Ukraine.
Et en tout cas, lors de ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale, les sanctions pour rupture de contrat sont limitées à renvoyer les soldats sans verser d'indemnité salariale, officiellement. Pour l'arrestation des militaires, une sanction doit être prononcée par un tribunal militaire. Voilà, donc il y a des avocats qui s'insurgent de l'enfermement donc de soldats réfractaires sur l'État ukrainien en faisant valoir ces points de droit.
Pardon, ça me fait penser que là, cette histoire de loi qui a été votée pour les réservistes qui refuseraient d'aller combattre, j'imagine s'ils doivent faire une loi nouvelle, c'est justement pour cet enjeu que tu dis que, vu que la Russie considère pas officiellement qu'elle est en guerre, elle peut pas appliquer les lois qui... Enfin, j'imagine qu'il y a déjà des lois qui existent pour punir, et bien plus sévèrement à mon avis que 3 ans de prison, les personnes qui refuseraient de se rendre au front alors qu'elles y sont appelées. Et du coup, c'est pour ça que là, ils ont fait une nouvelle loi lundi pour dire que les réservistes qui refuseraient d'aller au front, ils pouvaient avoir 3 ans de prison. Bref, c'est parce que j'avais pas juste en jeu avant du fait que pour eux c'est pas une guerre dans, enfin légalement en Russie le conflit est pas considéré comme une guerre, c'est seulement une opération. Bref, excuse-moi.
Et ben pour compléter, enfin j'espère qu'on parle de la même chose, mais moi j'avais vu donc un vote, oui bah si, donc ces fameux amendements, j'avais vu que dans ces amendements donc votés au Parlement, il y avait le refus de participer à des actions de combat qui pouvait être désormais puni de 10 ans de prison aussi. Que si un militaire russe se rend l'ennemi, il encourt dorénavant il encourt également une peine de 10 ans de prison. Encore plus, il est reconnu coupable de trahison. Dans ces amendements, il y a certains points qui visaient les chefs d'entreprise russes, à savoir que si des entreprises refusent plus de deux fois un contrat de production militaire, le directeur pourrait être envoyé en prison, en tout cas condamné à de la prison. Voilà. Un peu sur enfin moi en tout cas ce que j'avais à dire sur ce point, enfin sur la question de bah comment on fuit la guerre et comment les États empêchent tous ceux qui essayent de fuir la guerre en les enfermant avant de
juste là sur les dernières nouvelles de la mobilisation partielle, apparemment aujourd'hui suite à cette annonce il y a plein de gens qui sont en train de se barrer de Russie et aussi on n'a pas expliqué ce que ça voulait dire réserviste, mais c'est pas très clair j'ai l'impression pour nous ce que c'est vu que ça a l'air quand même assez différent que la France, parce que du coup ce qu'ils disent, ce que la Russie dit c'est qu'ils auraient une réserve de 35 millions de personnes, ce qui paraît vraiment énorme. Et que du coup, là, sur les 35 millions, ils veulent en prélever 300 000 pour la guerre actuelle. Mais voilà, mais du coup, ça a l'air de toucher beaucoup plus de monde que ce que c'est les réservistes en France. Et c'est peut-être aussi lié au fait que le service militaire, il soit obligatoire là-bas. Que du coup, à partir du moment où tu as été dans l'armée, tu peux potentiellement être compté comme réserviste, de ce qu'on a compris de c'est quoi les réservistes en Russie, mais voilà, c'est pas très clair, mais en tout cas il y a plein de gens qui sont en train de se barrer apparemment, enfin qui essayent parce que ils veulent pas partir à la guerre.
Ouais, et d'ailleurs ça me fait penser que cette guerre aussi est créée, enfin je vais pas m'épiloguer sur le sujet, mais est créé aussi du mouvement dans les États limitrophes, et il y a des États européens type la Lettonie qui pensent refaire un service militaire obligatoire. Enfin, bon, ça a des répercussions sur les États limitrophes. On va continuer de parler de ce qui se passe en Ukraine. Et je te laisse la parole, Gom, pour nous parler des camps de filtration.
Donc les camps de filtration, il y a une vingtaine de ce type de camps, au moins, qui ont été recensés depuis avril sur les territoires occupés dans l'oblast de Donetsk. Il y a la moitié de ces camps qui sont situés dans un rayon de 50 km autour de la ville de Mariupol, dont je parlais tout à l'heure, qui a été une zone de combat un peu intense pendant des mois. Et dans ces camps, il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui ont transité, des Ukrainiens qui tentaient de fuir ou alors qui voulaient entrer, mais je pense que c'est plus rare, dans les zones de combat. Et donc c'est des points de filtrage qui sont, comme leur nom l'indique, qui sont installés dans des endroits réquisitionnés, quoi. Donc tantôt dans des postes de police, tantôt dans des centres communautaires, des écoles, ou sinon c'est juste des camps de fortune. Du coup, ils montent des tentes à un endroit et voilà, c'est le camp de filtration. Donc les civils ukrainiens qui arrivent dans ces camps, ils subissent un interrogatoire. Et ils doivent remplir des questionnaires, notamment sur leur famille, leur emploi, leurs opinions politiques et surtout leurs liens éventuels avec l'armée et le gouvernement ukrainien. Les forces russes, elles collectent aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, c'est des camps qui ont été mis en place par les forces, les autorités russes. Les Russes collectent, les forces russes collectent leurs données biométriques également, donc leurs empreintes digitales, et ils font des photos de face, de côté, et ils les mettent aussi à poil pour regarder notamment quels tatouages ils ont sur le corps, pour voir s'il y a des notamment autour de Mariupol, du coup, s'il y a des personnes qui font partie du régiment Azov, où apparemment il y a des, ils ont des tatouages distinctifs. Ils se font confisquer leurs effets personnels, leurs papiers d'identité et leurs téléphones. Les téléphones, ils sont, enfin, et tous les papiers sont fouillés. Et ce moment-là, ça peut durer plusieurs semaines, voire un mois. Et après ça, il y en a qui sortent avec un récépissé. Il y en a d'autres qui sont mis en prison, du coup, pour leurs liens présumés avec l'armée ukrainienne ou des groupes nationalistes qui combattent. Et personne ne sait où ils partent et ce qu'ils deviennent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que les gens sont placés dans des prisons sous contrôle russe, ils peuvent pas avertir qui que ce soit de leur présence. Il y a une autre partie qui sont pas incarcérés, mais qui sont déportés de force en Russie, du coup plutôt ceux qui sont pas considérés comme ayant participé au combat, plutôt les civils qui donc sont déportés en Russie, et il y en a qui se retrouvent dans des genres de camps de travail comme à Toliati en Russie, donc, et il y en a d'autres qui arrivent à rejoindre l'Union européenne par l'Estonie notamment. D'après l'ONU, il y a eu 416 détentions arbitraires ou disparitions forcées du côté russe depuis le début du conflit de la guerre. Sur ces 416, il y en a 166 qui ont été libérés et 16 qui ont été retrouvés morts, et les autres dont il n'y a pas de nouvelles, qui sont certainement détenus ou exilés de force, comme je le disais. Les camps de filtration, en fait, c'est pas la première fois que la Russie s'en sert, parce qu'en fait c'est un truc qui est apparu sous le règne de Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Du coup à ce moment-là il y a tous les citoyens soviétiques qui avaient été faits prisonniers par les Allemands, du coup ils étaient des dizaines de milliers, qui avaient été faits prisonniers par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été enfermés dans des camps pour vérifier leur loyauté envers le régime et détecter ceux qui auraient pu être recrutés par les services de renseignement alliés. Et c'est aussi revenu au moment des deux guerres de Tchétchénie, du coup, en 94-96, puis en 99-2009, entre 99 et 2009, où l'armée russe avait arrêté des milliers de Tchétchènes qui étaient soupçonnés de soutenir l'insurrection indépendantiste. Et du coup, pareil, ils les faisaient transiter dans des camps de filtration où ils étaient torturés pour obtenir des aveux de participation ou d'idées en tout cas indépendantistes, et qu'il y a des milliers d'entre eux qui ont disparu ou qui ont été mutilés, qui sont devenus invalides. Donc là, ces camps de filtration, ils sont donc dans l'oblast de Donetsk notamment, mais il y a aussi eu des histoires, comme je disais, il y a après la libération de Kharkiv notamment, il y a des salles de torture qui ont été retrouvées, d'après en tout cas les autorités ukrainiennes. Mais également, il y a des témoignages dans la région de Kherson où il y a des gens qui disent qu'il y aurait une dizaine de centres, du coup, qu'ils appellent centres de torture, et où les gens sont passés à tabac. Il y a des tirs à balles réelles près de la tête, des étouffements à l'aide de masques à gaz. Je suis désolée pour l'énumération macabre, peut-être je vais m'arrêter là, mais en tout cas c'est vraiment des trucs de torture, jusqu'à l'électricité en mode guerre d'Algérie. Enfin voilà, du coup je sais pas ces centres, quelle est leur terminologie officielle, s'il y en a une, mais en tout cas je pense que c'est un peu lié à ce truc de camp de filtration et de voir de filtrer tous les gens qui se barrent des zones du front pour voir qui est pro-ukrainien, qui est pro-russe, et se débarrasser de ceux qui sont pro-ukrainiens, quoi, en gros, ou en tout cas d'exiler d'exiler les gens de force. Et voilà pour ce que j'avais à dire sur les camps de filtration.
Eh bien, ça fait beaucoup d'informations qu'on a un peu énumérées tout au long de cette émission. En tout cas, il y a un certain nombre de ces infos que vous pourrez retrouver sur le blog carapatage.noblogs.org, où on va mettre à la fois des liens d'articles intéressants et de blogs où on a pu pêcher quelques infos. Je rappelle aussi que si vous avez d'autres infos ou envie de participer un peu à, je sais pas, éventuellement une prochaine émission dans 4 mois, puisque a priori cette guerre n'est pas prête de s'arrêter, vous pouvez nous envoyer un mail à carapatage@riseup.net, mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour nous dire, je sais pas, qu'on s'est trompé sur des trucs, ou enfin bref, pour ce que vous voulez. En tout cas, nous, ce soir, on va s'arrêter là. Et je rappelle qu'on a un compte Instagram, @carapatage, que vous pouvez nous envoyer du courrier si vous avez envie, à l'adresse suivante, 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Et en attendant, on vous souhaite d'aller bien. force à toutes celles et ceux à l'intérieur. Et puis, à bientôt dans une prochaine émission. Salut.
Salut.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur.
En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage
contre toutes les cages.
Cette grande dame qui scrute mon martre et me sourit à belles dents. Elle voit son corps renaître, se met à rouler du cul boulevard Ménilmontant. Les gens sont tous les mêmes. Elle sourit d'un air bête. Le clin d'œil du je t'aime. Elle l'entend, elle l'entend, elle l'entend, elle l'entend, elle l'entend. Aujourd'hui c'est jour de fête, elle va voir son amant. Je veux voir ce grand seau qui pointe son sabre et compte ses poils au matin. Du bam bam badam, du bam bam badam bam. Impétueux de sa personne, il collectionne les cicatrices en fredonnant les tri indiens. Les gens sont tous les mêmes. lui répond le miroir. Le clin d'œil du je t'aime, il l'entend, il l'entend, il l'entend, il l'entend, il l'entend. Aujourd'hui c'est jour d'espoir, il devient un amant. الغرام نفسي الغرام حسني الغرام نفسي الغرام حسني الغرام حسني الغرام غردي الغرام حسني الغرام يا لي Les gens sont tous les mêmes, j'aurais pensé t'avoir. Le clin d'œil du je t'aime, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend. Aujourd'hui c'est jour d'espoir, laissons faire nos amants. Dessine en musique, à coups de pied dans les cajots, ça fait de drôles de rythmiques qui font danser les minots. Pas besoin d'électronique, une java ou un tango, tout devient trop mécanique, j'aime la musique au sang chaud. La rhapsodie du sourdingue Miroclado qui vous console. C'est la rhapsodie du sourdin Miroclodon qui vous séduit. Celle d'hier, d'aujourd'hui qui construit ses bateaux sur une clé de sable. C'est la rhapsodie du sourdin Miroclodon qui vous conduit. La rue est dessinée électrique, les passants comme les poteaux, ça fait un joli triptyque avec nos gueules dans le tableau. On prend des airs atmosphériques, les points de fuite c'est les oiseaux, ça donne un jus volcanique comme la musique de Rimbaud. C'est la rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous console. Rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous séduit. Celle d'hier, d'aujourd'hui qui construit ses bateaux sur une clé de sable. C'est la rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous conduit.
La table, mon trône, la fumée, ma fierté d'être le fils du fiel urbain. Le zinc, c'est ma zone, le vin, ma victoire. La table, mon trône, la fumée, ma fierté d'être le fils du fiel urbain. Et si je t'attrape, ben danse. Et si je t'amache, ben pense. Et si je t'attrape, ben danse. Et si je t'amache, ben pense. La musique, la musique, la musique, la musique, la musique. La rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous console. C'est la rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous séduit. Celle d'hier.
hier d'aujourd'hui qui construit ce bateau sur une clé de sable. Oui, c'est la rhapsodie du sourdingue Miroclodo qui vous conduit. Qui vous conduit. Qui vous conduit. Des moments que l'on ne peut comprendre, à n'y plus rien entendre, à tout ce qu'on a appris. Des accès de vent qui viennent vous surprendre pendant ces heures tendres où l'on est endormi. Des tempêtes déguisées en brise et volutes de soie. Des cyclones qu'on ne voit pas venir et qui tournent tout autour de soi. Des morceaux de couleurs, des rayons de douceur qui laissent comme un vertige quand ils ne sont plus là. Des débordements de cœur, des sirocos de peur. Car il s'agit de croire et d'abandonner tout phare. Est-il temps que je me rende? Est-il temps que je me rende? Est-il temps que je me rende et me livre aux zéphyrs? Suivi ce vent aux paroles de rêve, c'était un joli piège farci de piquant. Pour qu'il ait l'élan, j'ai donné toute ma sève. Me voilà cœur ouvert par des morsures de dents. Est venu le doute, accompagné de son frère. Le terrible, à quoi ça sert? Plus on l'écoute et moins on se relève de terre, accablé par la nostalgie de l'air. Mais passe l'effet de surprise, et moi qui avais lâché prise, il m'a fallu pour tourner la page, à peine le temps d'un sevrage. Finalement de ce jeu de vent, je sors à la place du gagnant. Car sur ses doigts j'ai réappris ce que j'avais mis dans l'oubli. C'est en moi que je trouverai, c'est en moi et je le sais. C'est en moi que je trouverai le souffle de mon zéphyr. Le souffle de mon zéphyr. Les mains d'Adam y étaient thènes. Les mains d'Adam y étaient thènes. Aman, 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 aman. Habbi, je me loufetène. Aman, 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 aman. Lemme biela hazwa sarana. Lemme biela hazwa sarana. Rusno sada akhinama. Aman, 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 aman. Thank you. ومدت على الدنيا موجة ظلام إذا الشمس يغرق في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون البصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهومية ما فيش لك دليل غير عيون الكلام ما فيش لك دليل غير عيون الكلام قول جدع جدع قول جبان جبان جدع جدع والجبن جبن إذا الشمس يغرق في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام إذا الشمس يغرق في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون البصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهومية ما فيش لك دليل غير عيون الكلام ما فيش لك دليل غير عيون الكلام قول جدع جدع قول جبان جبان قول جدع جدع قول جبان جبان
Si toi ça fait un bail que t'es planté là Te voir de loin ça suffit Je t'offre un verre ou un peu de tabac L'avenir est si joli Tu viens à peine d'ouvrir les bras Que je rêve dans notre pays Cette bonne guerre On ne se connaît pas Car toi et moi Espace et territoire Je bascule en toi Tu découles de moi Au bout des lignes Il restera des mots Pour un regard, prends mon regard, oui, toi et moi, espace ou territoire, je bascule ton toit, tu découles de moi. Au bout des lignes, il restera des mots pour un regard. Prends mon regard, t'as 30 ans, je suis pas fini, la mine paisible, tu presses le pas. T'aimes quand je te sers aussi, tu veux un enfant, des petits formats. L'avenir serait si joli, on l'appellerait ta langue au chat Il resterait bien poli, laisse-toi faire dans le cœur du débat Car toi et moi, espace et territoire Je bascule ton toit, tu roucoules en moi Au bout des lignes, il restera des mômes Pour un regard, prends mon regard, oui Toi et moi, espace ou territoire Je bascule ton toit, tu roucoules en moi Au bout des lignes, il restera des mots Pour un regard, prends mon regard En espérant que ça bouge, qu'on s'envole Qu'on s'affole, qu'on rigole, qu'on décolle, qu'on se dévoile Prends mon regard J'suis au plus bas des bas de soi, je te le dis en coloris L'amour n'est pas fini, il faut le faire, sans foi ni loi
L'avenir c'est du tout cuit, s'il faut que ça change, je change de toi. Et que le bonheur soit permis sur chaque terre, contre un peu de tabac. Car toi et moi, espace et territoire, je bascule ton toit, tu dégages de moi. Au bout des lignes, il restera tes mots pour un regard. Prends mon regard, toi et moi, espace et territoire, je bascule ton toit, tu recules en moi. Au bout des lignes, il restera des mots pour un regard. Prends mon regard.
Merci, c'était pas allumé, merci que je vous l'accorde. Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, Urbi, comme Urbi, sans publicité ni sponsor. Alors, pour vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, la solution c'est d'aller 145 rue Almelot dans le 11e arrondissement. C'est une très bonne librairie ouverte du mardi au samedi à partir de 13h. C'est une très belle librairie avec des libraires très, très consciencieux. Et dans l'arrière-boutique, il y a. C'est une très belle salle voûtée. Il y a des livres à 1 euro. Et c'est là que j'ai trouvé. C'est là que j'ai trouvé le Déjeuner sur elle, Jacques Coda, 1 euro. Hein, et j'ai lu ça, c'est un livre porno.
C'est un livre d'artiste.
Cannibale, et qui recouvre quasiment toute l'œuvre de Jacques Coda, parce qu'on s'aperçoit qu'au niveau du corps, même dans le livre qu'il a publié chez Caméra, Gréco et autres textes, Jacques Coda, Marest Édition, il nous met en garde en disant j'ai toujours regardé la peinture comme l'expression d'une digestion.
Ce qui est vrai, bien sûr.
Mon atelier ressemble à une cuisine. Il ressemble aussi à celui d'Horacio Diaz, le peintre amant de Tristana dans le film éponyme de Buñuel, tourné à Tolède. Voilà, on est en plein dans la matière. Voilà. Hein,
j'allais ajouter un adjectif qui n'aurait peut-être.
Voilà, on est bien sur Onde de choc, par conséquent. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris Pierre-Julien Marest, éditeur, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités, hein, parce qu'avec M. Jacques Coda, c'est pas facile. Moi, je suis lecteur et c'est pas du tout aisé. Je crois que j'ai dit que c'est un auteur douteux hors antenne.
Pire que ça.
J'ai noté
et ça sera...
Voilà, vous avez souffert. Il y a deux livres que publiés. Un qui est dans le commerce, c'est lequel ?
Alors, Les 10 meilleurs films de tous les temps, c'est dans le commerce, c'est paru en 2007.
2007, de Luc Chomara.
Voilà, et celui qui vient de paraître, c'est l'invention du cinéma.
Du cinéma. Voilà,
et qui, du et même
qui
auteur.
Qui n'est pas encore dans
qui est paru jeudi dernier.
Alors, ce sont deux livres très agréables au niveau du format. Alors, monsieur, sachez une chose, que pour qui fait une émission c'est très élégant de faire des livres sans pagination. C'est très bien, mais pour celui qui fait une émission de radio qui doit se référer, c'est très difficile.
C'est exactement ça, fait. C'est pour vous embêter.
C'est pour emmerder
l'animateur de radio. Voilà.
Donc je vous présente aussi Monique à la technique depuis tant et tant d'années. Alors, je vais vous dire quand même. Alors Monique a, voici quelques 15 jours, je crois, a assuré entièrement toute la technique sur les 40 ans de Radio Libertaire. C'est pas mal, 40 ans de Radio Libertaire. Elle a été parfaite. Parfaite à la technique, de l'exactitude, tout ce qu'on voudra. Le samedi passe très bien. Arrive le dimanche, et à mon œil, il y a un groupe qui passe. Le groupe Nout. N-O-U-T. Et Monique est plus habituée aux chansons à texte, etc., etc. Effectivement, et là, c'est la musique qui va nous suivre pendant toute l'émission, comme ça. Il y a une flûte, une harpe, des drums, et puis ça dégage. Et là, on a craint pour la vie de Monique. On a craint. Mais elle a résisté. Monique résiste à tout. Et le soir, vers 16h30, il a fallu l'exfiltrer. On lui a offert, on s'est cotisé, on l'a exfiltré, on lui a offert un voyage aux Bahamas. Elle est partie trois semaines. Elle est revenue spécialement pour Onde de Choc, pour toi.
Elle est bronzée,
elle est revenue spécialement pour toi,
Jacques. Dorée, on dirait du pain d'épices.
Jacques Coda, elle est en pleine forme. Alors, surtout, tu ne la contraries pas. Tu ne confonds pas, parce que M. Coda, quand il vient ici, il fait du tam-tam avec la table. Tu ne la contraries pas.
Qu'avec la table.
Parce que là, elle est parfaite.
Bon.
Elle est absolument parfaite.
Comme d'habitude.
Mais attention, parce qu'on va penser, on va passer Nout et je crains le pire.
Ah, je crains le pire. C'est quoi ce Nout?
Voilà. Pierre-Julien, bonjour. C'est un plaisir parce que là, on va parler. J'avais déjà malheureusement reçu M. Jacques Coda. On n'avait pas eu le temps de plonger dans la caméra Gréco et autres textes, comme ça. C'est un texte difficile. Un texte difficile, hein.
Oui, je dirais pas difficile. C'est un texte. L'adjectif exact me vient, je dirais pointu ou oui.
Initié.
Voilà, pour amoureux du cinéma et de la peinture.
Voilà. Et on va parler de deux livres, les 10 meilleurs films de tous les temps de Luc Chobarin.
Oui.
Il est paru celui-là ?
Voilà, celui-là est paru en 2017. Et de la même manière, on pourrait dire que c'est un livre qui est. Comme son titre ne l'indique pas, ça s'adresse aux amateurs de Zou et de Tarkovsky, donc deux cinéastes.
Là, on va pas être tout à on va. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. On va le décortiquer ensemble. Et là, j'ai une petite. Un petit recul. D'accord, on le fera tout à l'heure ?
Bien sûr.
D'accord. Par contre, c'est l'invention du cinéma, donc aux éditions Marest. Et alors, dès la couverture, magnifique, c'est Méliès. Un magicien, Méliès.
Oui.
Un magicien, on ne peut pas. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'invention du cinéma ? On lit en dessous, édition Marest.